Bonjour à tous, il est l'heure de retrouver Profession de foi, cette semaine au micro d'Éric Vial depuis les bureaux de la Fondation Napoléon à Paris. Thierry Lenz, directeur de la Fondation Napoléon.
Tout pour Napoléon, fils d'ouvrier sidérurgiste, ce minot d'Agondange est aujourd'hui l'une des plus grandes références et sans doute l'une des meilleures de l'histoire napoléonienne. Ancien assistant parlementaire du député socialiste de la Moselle Robert Malgrasse, puis directeur de la Société d'aménagement urbain et rural, une filiale du groupe Bouygues, ce juriste de formation devient à partir de 2000 le directeur de la Fondation Napoléon, une organisation extrêmement prestigieuse dans notre pays. Ses premiers ouvrages sur Napoléon remontent à 1986, alors qu'il n'a que 27 ans. Le livre qu'il vient de sortir à l'occasion du bicentenaire de la mort de Napoléon, intitulé « Pour Napoléon », cartonne en librairie. C'est son plus grand succès littéraire, comme quoi le lien entre Napoléon et les Français après 200 ans n'est toujours pas coupé. Et si le bonapartisme était une idée nouvelle pour la France et la République de demain, nous allons en parler avec lui. Aujourd'hui, dans Profession de foi, nous recevons Thierry Lenz. Bonjour Thierry Lenz.
Bonjour.
Je suis enchanté de vous interroger pour Radio Judaïka. Merci de nous recevoir un peu chez vous, dans ce lieu prestigieux qu'est la Fondation Napoléon. Il y a évidemment plusieurs raisons pour qu'on vienne chez vous. D'abord, évidemment, la sortie de votre livre « Pour Napoléon » aux éditions Perrin. Le bicentenaire de Napoléon, qu'on fêtera ou pas, ce sera à vous de nous le dire. Et le fait que vous soyez un homme de l'Est, puisque vous êtes mosellan d'origine,
oui,
c'est ça ?
Je suis né à Metz, oui.
Et puis les controverses ou polémiques qui émaillent actuellement la société française au sujet du concordat, du financement, du religieux, de l'entrisme des puissances étrangères sur notre territoire, de l'antisémitisme. En fait, un peu un condensé de tout ce qui s'est passé ces derniers jours à Strasbourg et que vous avez dû évidemment suivre. Avec votre œil d'expert de l'histoire napoléonienne, nous comptons donc bien trouver évidemment quelques réponses à nos interrogations. Si on regarde avec le prisme de Napoléon, vous pensez qu'on y arrivera à régler tout ça, là, toutes ces histoires de controverses ?
Je pense que les controverses ne seront pas réglées, mais elles sont aussi suscitées parfois par un manque de décision, un manque de courage. Donc dès lors que nos dirigeants retrouveront à la fois une colonne vertébrale idéologique et du courage, probablement ça se réglera. Alors je vous annonce pas ça pour demain matin, évidemment.
Ouais, ça vous a fait peur quand vous avez suivi l'actualité justement alsacienne, cette résolution contre l'antisémitisme, le fait qu'il y ait eu de nouveau une controverse en disant bah, « Napoléon était antisémite », le fait qu'une mairie vote 2,5 millions d'euros pour une association fondamentaliste proche d'Erdogan. Vous, avec votre œil d'historien, ça doit vous faire bizarre quand même.
Oui, alors là vraiment, d'abord, l'œil de citoyen ou l'oreille de citoyen a été un petit peu choqué par tout ça, parce que, évidemment, on se réfugie derrière le statut concordataire, etc. Mais enfin, bon, faudrait peut-être aller au fond des choses. Le statut concordataire ne concerne pas ce culte-là. Et par ailleurs, il ne donne pas obligation aux municipalités d'aider quoi que ce soit. Il leur donne éventuellement la possibilité. Or là, j'ai l'impression que cette possibilité, elle a été saisie avec gourmandise par la majorité municipale qui joue probablement un jeu dangereux. Mais vous savez, c'est toujours la même chose. Hein. Les révolutions et ces mouvements-là finissent toujours par manger leurs enfants. Et donc, forcément, un jour ou l'autre, ils le regretteront. Mais bon, il sera évidemment trop tard. Quant aux affaires touchant à l'antisémitisme, le non-vote de la motion de l'INRA a été une grande surprise. Strasbourg, c'est quand même une ville dont la réputation est une européanité, une ouverture, un vrai mélange, alors qui est très ancien, hein, qui n'est pas seulement le mélange du dernier siècle, et voir une majorité municipale pratiquement simultanément accepter l'un, refuser l'autre, c'est quand même, ça nous surprend un petit peu.
Alors, si je suis là aujourd'hui dans cette Fondation Napoléon, prestigieuse, c'est pour parler de votre livre aussi, Pour Napoléon, très belle couverture. D'abord, il faut nous expliquer ce titre, Pour Napoléon. Puis je vais être un peu cash quand même. J'ai lu ce livre comme un cri, un jaillissement contre la connerie, l'inculture, Est-ce que c'est un peu ça quand même ?
Oui, alors il y a plusieurs éléments à donner. D'abord, le titre lui-même pour Napoléon, il est déjà une réaction, parce que j'ai décidé d'écrire cet essai il y a à peu près 8-9 mois, après avoir participé à une réunion très prestigieuse avec des grands musées, des historiens, des très hauts fonctionnaires, etc., où on parlait de l'organisation d'une exposition sur Napoléon, on va le dire, à la Villette. Hein, elle aura lieu finalement. Et après une première partie de réunion où tout le monde était enthousiaste, où on était sûr qu'il allait se passer une de grandes choses, il y a un haut fonctionnaire qui a levé la main et qui a dit « Ah oui, mais il ne faudra pas oublier de parler de la tyrannie, de l'esclavage, des morts des guerres, du statut des femmes, etc. » Oui, je le raconte dans le livre. Et donc, moi, je lui ai proposé à ce moment-là de prendre pour titre de l'exposition « Contre Napoléon ». Et du coup, ça m'a donné l'idée de lui répondre cet essai qui donc s'appelle « Pour Napoléon », qui n'est pas généralement ma façon de parler de cette période historique. Je suis généralement un petit peu plus froid, un petit peu plus éloigné du débat contemporain. Mais bon, là, je pense que c'était vraiment... je me suis dit qu'après avoir fait une quarantaine de livres purement historiques sur l'époque napoléonienne, je pouvais peut-être me permettre une petite échappée. Voilà, c'est ce qui a donné naissance à ce livre. Vous parliez d'un cri, en effet. Alors, c'est un cri...
Il y a de la colère. Il y a de la colère. Vraiment.
Vraiment du désappointement. Oui. C'est-à-dire de voir que... est totalement négligé, presque méprisé, le sentiment, je vais dire, majoritaire d'un intérêt pour l'époque napoléonienne. Je ne dis pas d'une passion, d'un amour, de quoi que ce soit, mais d'un intérêt. Il suffit de regarder autour de nous, les magazines sur Napoléon se vendent bien, les livres sur Napoléon se vendent bien. Quand il y a un programme sur Napoléon à la télé, c'est généralement celui qui marche le mieux, etc. Donc il y a un intérêt des gens pour cette histoire-là, qui est aussi un petit peu leur histoire, et qui peut même devenir l'histoire de ceux qui nous ont rejoints dans la nation française. Et puis... face à ça, on a un certain nombre, je dirais, de bêtises, de choses fausses qui sont avancées et une instrumentalisation au service des sensibilités contemporaines d'erreurs, de points noirs commises il y a 200 ans par un gouvernement qui était celui de Napoléon.
Les hommes ressemblent plus à leur temps qu'à leur père. Il y a de très belles... déclaration dans cet essai. Celle-ci est de Marc Bloch et ouais. Vous dites, c'est le fil rouge de cet essai.
Oui, parce que en fait, l'utilisation notamment de la commémoration du bicentenaire de Napoléon par certaines forces qu'on pourra définir de façon plus précise un peu plus tard montre bien que on a changé de temps. On a changé d'époque, on a changé de matière, de manière de débattre, on a changé même de style en passant de la politesse à l'invective, et que c'est de plus en plus difficile d'avoir un dialogue, y compris d'ailleurs pour constater qu'on n'est pas d'accord. Hein. Le dialogue, ça ne veut pas dire forcément négocier un point moyen, mais voilà, on est dans l'invective. Je prends l'exemple qui me concerne. J'ai publié ce livre dans lequel j'égratigne un certain nombre de personnes sans donner leur nom, mais qui se sont très bien reconnues. Il y a eu quelques déclarations récentes. Moi, je propose des débats à ces gens-là. Hein. Eh bien, ils refusent le débat. Donc,
Alors, il faut qu'on rappelle, après tout, c'est le bicentenaire, tout ce qu'a apporté Napoléon à notre pays. Je les ai notés hein, au fur et à mesure que vous en parlez dans le livre. Le bac des lycéens, la Légion d'honneur, les pompiers de Paris, les internats des hôpitaux, la vaccination de masse, le numérotage des rues, le nettoyage des rues, le Conseil d'État, les conseils généraux, les préfets, les préfectures, l'organisation municipale, la police nationale, la préfecture et le maintien de la police, la préfecture de police, la gendarmerie nationale, les haras nationaux, la Cour des comptes, les ingénieurs, hein, les ponts et chaussées, les mines, la cour d'appel. Je vais m'arrêter là parce qu'autrement, ouais, on va avoir deux heures. Tout ça fait en 15 ans.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire, bien souvent, ce sont des institutions qui préexistaient sous une autre forme. Napoléon a tout, en fait, tout réorganisé autour d'une idée simple pour lui, c'était que l'État devait avoir un rôle central dans la société, d'une part, qu'ensuite ce rôle central devait conforter l'unité nationale. C'était très, très important pour lui. Et puis que l'ensemble devait correspondre à une société, je dirais, en ordre, pour ne pas dire une société d'ordre, parce qu'évidemment, on me parlera immédiatement de police, de contrôle des idées, etc. Mais c'était l'ordre, le fond de sa doctrine. Alors, partant de là, évidemment, c'est le fondement de la France contemporaine. C'est aussi pourquoi Napoléon est l'objet de ses attaques, de ses critiques, etc., qui sont, encore une fois, on a le droit de critiquer Napoléon, il n'y a pas de problème. Simplement, ce qu'il y a, c'est que l'agenda n'est pas Napoléon. Mmh. L'agenda, c'est autre chose, c'est tout ce que ces gens détestent, c'est l'unité nationale, l'autorité, l'ordre, la propriété, etc., etc. Donc, je me suis dit qu'à la fois, comme historien, connaissant bien cette période, je pouvais leur expliquer, en fait, ce que Napoléon avait voulu faire, et puis en même temps, répondre aussi à leur façon de procéder, alors en gardant beaucoup plus de corrections qu'eux n'en ont parfois à mon égard. Mais voilà, c'était un petit peu le but. Et puis, on peut ajouter aussi que, comme je le dis dans l'introduction, Napoléon est en même temps en nous. C'est-à-dire que nous faisons tous les jours du Napoléon sans le savoir, parce que nous appliquons le code civil, parce que, même d'ailleurs au-delà de notre vie, puisque les successions ont été réglées par le code de 1804. Et donc voilà, bien sûr, on peut critiquer Napoléon et on peut discuter de son œuvre, mais on ne peut pas l'effacer. Or, le but, là, c'est de l'effacer.
Des hommes politiques contemporains appelle sans rire à une politique napoléonienne. Vous le savez, ça existe. Est-ce que cela est vraiment possible aujourd'hui et qui pour l'incarner ?
Alors, bien sûr que non. C'est-à-dire que les temps changent et notre temps n'est plus celui de ces époques-là. Il y aurait une question de style, probablement, où là, on pourrait discuter. Mais évidemment, les solutions institutionnelles ont évolué. Par exemple, je prends l'exemple du droit de la famille, il a changé, on ne peut pas revenir là-dessus, etc. Il faut être aussi un petit peu de son temps. Ce qui manque un petit peu dans tout ça, c'est au fond une façon de gouverner, mais qui n'a pas été que celle de Napoléon, qui a été aussi celle de Clémenceau, qui a été aussi celle du général de Gaulle, celle qui a été aussi celle de Pierre Mendès France, c'est-à-dire avoir une certaine suite dans les idées, c'est-à-dire déjà avoir des idées, ce qui est un préalable, ensuite avoir de la suite dans les idées, puis faire preuve. Rappelons quand même que nous nommons nos représentants pour qu'ils nous permettent de vivre paisiblement de notre travail, sans forcément se jeter les assiettes à la tête à longueur de temps. Et au fond, c'est peut-être un peu, alors vous m'entraînez vraiment sur le contemporain, mais c'est peut-être un peu ce qui manque, et dont la crise que nous traversons, la crise sanitaire, a montré quand même les effets négatifs. Il n'y a plus d'autorité, il n'y a plus de responsabilité non plus, parce que il y a des gens qui ont commis des fautes et qui sont toujours en place. La responsabilité, elle s'applique, et même en étant injuste. Je veux dire, je ne dis pas qu'il fallait faire tomber des têtes, mais il fallait quand même prendre des décisions pour montrer, ça y est, on a compris les erreurs que nous avons faites, et Monsieur X, Monsieur professeur machin, etc., vous allez retourner dans votre université ou dans votre hôpital parce qu'on va avoir besoin d'avoir quelqu'un qui commettra moins d'erreurs à la Direction Générale de la Santé, par exemple.
C'est le bicentenaire de Napoléon cette année, 200 ans plus tard. Est-ce que le napoléonisme est mort ? Est-ce que c'est de l'histoire ancienne ?
Je pense que oui. Je sais que ça ne fera pas plaisir à ceux qui sont très très passionnés, etc. Mais moi, on me dit souvent « Ah, si Napoléon revenait !» Mais oui, mais Napoléon ne reviendra pas. Ensuite, Napoléon correspond à une période spécifique, à des circonstances particulières, à des possibilités qui étaient offertes de son temps qui n'existent plus aujourd'hui. Et de même qu'il n'y a pas de gaullisme sans De Gaulle, le gaullisme est mort avec Philippe Séguin. Le bonapartisme, il est mort avec les tout derniers députés des années 1920 qui voulaient le rétablissement de l'Empire. Encore une fois, le problème, c'est pas tant la personne de Napoléon que le style, que la façon de gouverner, que la façon de prendre à bras-le-corps sa mission.
Alors, votre livre pour Napoléon tente de redire des vérités historiques, mais c'est aussi un livre politique. C'est d'ailleurs pour ça que je suis là aujourd'hui. Vous dénoncez les gabegies de l'État, 6 millions de fonctionnaires mal administrés, c'est vous qui le dites.
Hein. Oui, oui, oui.
La politique sanitaire liée au Covid. Vous avez des mots très acides pour la décentralisation, avec la multiplication des intercommunalités, le doublonnage des structures. Comment on a pu en arriver là depuis Napoléon ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
Écoutez, c'est une longue histoire, évidemment. Ce que j'essaie d'expliquer dans ce livre, c'est qu'aujourd'hui, à chaque fois que quelque chose fonctionne mal au niveau de l'État, on vous dit « c'est l'État napoléonien ». Bon. Or, il y a bien longtemps que l'État n'est plus l'État napoléonien. C'est-à-dire que l'État napoléonien, il était surtout concentré sur les choses régaliennes. Il s'appuyait sur une pression fiscale qui était très faible, hein, moins de 10% à l'époque napoléonienne. Mais c'est vrai aussi que l'État n'était pas ce qu'il était aujourd'hui. Et puis surtout, il était organisé de façon un petit peu compréhensible. Ce que je veux dire aujourd'hui, moi je ne suis absolument pas contre la décentralisation. Je suis contre la décentralisation qui n'a pas de but. C'est-à-dire, c'est décentraliser pour décentraliser, c'est, à mon sens, atteindre à l'unité nationale. Quand on voit
c'est
aujourd'hui...
comme les grandes régions.
Alors, les grandes régions, c'est encore autre chose, et surtout, enfin, la nôtre, hein, j'allais dire, ce Grand Est qui ne ressemble absolument à rien. Hein, enfin, et d'ailleurs, du coup, l'Alsace s'en sépare un petit peu. Ce que je trouve d'ailleurs remarquable de la part de la volonté des Alsaciens de conserver leur spécificité, mais ce que je trouve absolument inadmissible sur le plan de l'unité nationale, vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire, on va avoir, alors l'Alsace aura un statut particulier, la Moselle vient de se décider des départements européens ou je ne sais pas quoi. Dans la région de Lyon, on s'est gentiment partagé les compétences entre le conseil départemental, la mairie et la métropole, etc. Tout le monde fait ce qu'il veut. Et au fond, quand on regarde un peu dans l'histoire, l'équivalent de ça, c'est l'Ancien Régime. C'est-à-dire que nous sommes, par une espèce de volonté de toujours décentraliser davantage, nous sommes en train de retourner à l'Ancien Régime.
Mais c'est pour faire face à des conneries, disons le mot, institutionnelles qui ont été mises en place.
Bien sûr, on a voulu...
Qui n'ont ni queue ni tête au niveau de la culture, au niveau de l'histoire.
D'abord ça, c'est vrai que malgré tout, ça correspond quand même à une forme d'histoire. Et même les départements correspondent maintenant, ça fait plus de 200 ans que ça existe, ça correspond à quelque chose. Et puis surtout, c'est cette décentralisation ne sait pas où elle va. C'est-à-dire que demain, je ne sais pas, un maire d'une ville importante va dire « moi j'ai une spécificité et je veux être indépendant de la région ou du département », on lui dira « oui ». C'est parce qu'on n'a pas le droit de critiquer la décentralisation, comme je le dis souvent, on n'a pas le droit de critiquer les bébés et les petits chats. Donc forcément, la décentralisation qui rapprocherait soi-disant le pouvoir des citoyens est inattaquable et c'est forcément bien quand on décentralise.
Il faut être bien vu, c'est ça la politique aujourd'hui.
Oui, je pense que c'est aussi dû au fait, c'est un peu notre faute à tous, hein, c'est-à-dire que depuis assez longtemps, on a accepté qu'il n'y ait plus de culture générale dans les cursus, etc. Moi, j'ai 62 ans bientôt. Si vous voulez, les gens qui sont au pouvoir, aux manettes de l'administration aujourd'hui, ils ont 20-25 ans de moins que moi. Hein, qu'est-ce qui s'est passé en 20 ans ou en 25 ans pour qu'une éducation qui valorisait la culture générale, la profondeur historique, etc., ait produit autre chose, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas de colonne vertébrale et dont, au fond, l'idée, c'est que c'est à eux de tout créer, que rien n'a existé avant eux, quoi.
Alors, vous êtes Thierry Lenz, aujourd'hui l'invité de Profession de foi à l'émission politique de Radio Judaïka. Nous avons annoncé votre venue. Il y a eu beaucoup de questions, beaucoup d'auditeurs qui nous ont envoyé des questions. C'est Valérie, la présentatrice du journal, qui en a sélectionné 3 pour commencer. Il y en aura 3 autres dans la deuxième partie. Voici la première question que nous avons reçue sur le mail dédié judaïka@live.fr.
Une première question de Rose de Niedersbergen. Napoléon était un homme à femme. Ce n'est pas un très bon exemple pour les hommes d'aujourd'hui qui, heureusement, se comportent mieux avec la gente féminine.
Alors, je comprends le sens de la question de Rose. Je ferai d'abord une première remarque. Napoléon n'est pas vraiment un homme à femme, c'est-à-dire qu'il a effectivement eu deux épouses, mais enfin, c'est quand même assez banal. Il a eu des maîtresses comme les souverains de son temps en avaient. Ça ressemblait un petit peu, pardonnez-moi l'expression, mais au repos du guerrier. Bon, voilà.
Des enfants naturels.
Il a eu deux enfants naturels, qu'il a d'ailleurs reconnus, hein, donc on peut pas
et qu'il aimait.
Faire, et qu'il aimait, qu'il a doté, etc., qui ont d'ailleurs donné une descendance. Il y a aujourd'hui des descendants directs de Napoléon, hein, chez les Walewski, chez l'ancien comte Léon. On sait que dans son comportement privé, il était parfaitement délicat et parfaitement correct avec les dames. Hein, ça, donc voilà. Je pense d'ailleurs que, je ne sais pas si j'aurai l'occasion de le redire, donc je le dis maintenant, quand on veut analyser un grand homme comme Napoléon ou comme le général de Gaulle ou comme d'autres, les côtés domestiques n'ont pas tellement d'intérêt parce qu'en fait, ils ne sont pas des hommes du quotidien. Ils sont de grands hommes, mais la vraie question, c'est quelle est l'alchimie qui vous fait passer d'un être humain désagréable, pas drôle, à un grand homme, quoi. Je veux dire, le général de Gaulle n'était pas réputé pour être particulièrement friendly et sympathique, quoi. Et bon, Napoléon, c'est un petit peu pareil. Alors, sous la question de Rose, il y a aussi la question du statut de la femme, du code civil. Alors, on n'a pas le temps de tout expliquer, mais Napoléon est un homme de son temps. Et son temps n'est pas celui de la libération de la femme. Contrairement à ce qu'on dit, la Révolution n'a pas libéré les femmes. La Révolution a laissé les femmes en dehors de la citoyenneté et toutes les héroïnes féminines de la Révolution ont fini soit sur l'échafaud, soit en maison de repos. Hein. C'est la convention qui fait guillotiner Olympe de Gouges, c'est la convention qui supprime les clubs de femmes, et donc Napoléon hérite au fond d'une situation qui était probablement plus dure pour les femmes que sous l'Ancien Régime. Hein. Et le Code enregistre les mœurs du temps. C'est comme ça, hein. C'est pas bien, mais c'est comme ça. Et dans les juristes de l'époque, alors chaque fois que je dis ça, les féministes ou les femmes même en général bondissent, dans l'esprit des juristes de l'époque, c'était l'assujettissement de la femme à son mari ou à son père est compensé par l'obligation pour le père ou le mari de protéger à la fois personnellement et patrimonialement la femme. Alors évidemment, c'est aujourd'hui, ça nous paraît complètement invraisemblable, mais enfin, il faut quand même remarquer qu'il a fallu attendre 1965 pour que soient supprimées les incapacités professionnelles des femmes et le milieu des années 70 pour que l'égalité juridique soit totale. Hein. Je dis 1970, hein, pas 1870. Donc voilà, il y a effectivement beaucoup de choses. Ce qui est intéressant dans toutes ces histoires, c'est de savoir pourquoi, comment justifiait-on à l'époque que ça, non pas pour dire que c'était bien qu'il faut le refaire aujourd'hui, évidemment, mais aussi pour mesurer le chemin parcouru. C'est-à-dire comment des femmes qui, en 1804, deviennent des femmes assujetties, deviennent des femmes libres, 150 ans après, parce qu'il faut attendre 150 ans avant que ça change, hein, le droit de vote des femmes, c'est 1945. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant dans l'histoire. C'est évidemment pas de justifier des décisions qui ne le sont pas dans le contemporain.
Une deuxième question.
Ludovic de Reims, quels ont été les sentiments de M. Lens quand il a vu la statue de Joséphine dégradée en Martinique ?
D'abord, un sentiment de citoyen en me disant qu'une statue qui se trouve quand même sous les fenêtres du préfet et à 250 mètres du commissariat de police, qui est en marbre, donc qui ne se casse pas facilement, il faut du temps pour cela, on puisse la détruire sans intervention des forces de l'ordre, ça m'interroge sur la notion d'ordre public dans notre République. Je sais que le lendemain, le Premier ministre a condamné très fermement, disait-il. Je pense que s'il avait dit très, très fermement, ça aurait été encore mieux. Mais bon, voilà, c'est à peu près tout ce qui s'est passé. C'est d'autant plus embêtant que les militants qui ont détruit cette statue, à mon avis, savent très bien que Joséphine n'est pour rien dans le rétablissement de l'esclavage. Hein. Elle avait quitté la Martinique depuis plus de 20 ans.
Et pour ceux qui ne savent pas, elle est de là-bas, elle est martiniquaise.
Elle est martiniquaise, alors c'est une créole, donc c'est une, comment dire, elle était d'une famille de planteurs, hein, bien sûr, qui employait des esclaves. On sait par sa correspondance, par des témoignages qu'elle a donnés, qu'elle n'était pas une fanatique de l'esclavage, que ça l'avait beaucoup choquée, parce que c'était une toute petite plantation, elle habitait avec les esclaves.
Hein, donc très loin des trois îlets.
Voilà, elle les a vus comme étant pas des congénères, parce qu'évidemment, il y avait une différence sociale, mais elle les a connus, elle les a fréquentés, donc elle n'était pas une fanatique de l'esclavage. Puis ensuite, elle a écrit à cette époque-là, à peu près, à sa mère, qui vivait encore en Martinique, elle lui a dit, mais rentrez, laissez tomber tout ça c'est terminé, etc. Si vraiment elle avait eu l'espoir de pouvoir faire rétablir l'esclavage, elle aurait dit à sa mère de rester, parce qu'il y avait encore quelques affaires à faire. Donc voilà, c'est aussi l'illustration que, on prétend des choses historiquement fausses et puis on en fait une vérité et puis tout le monde s'en contente.
Une troisième question.
Une question de Maurice de Mittelhausbergen. Bonjour, merci de recevoir Monsieur Lenz. J'ai lu son livre. Il parle des ayatollahs du bien qui revisitent l'histoire. Qui sont-ils ?
Bah écoutez, ils sont ceux qu'on entend. C'est-à-dire, je ne me rappelle jamais des sigles exacts, mais enfin toutes ces associations postcolonialistes, etc., la défense des Noirs, et ainsi de suite. Donc ça, c'est la partie activiste de tout ça. Donc ce sont des gens généralement pas très sérieux sur le plan historique, philosophique et tout ce qu'on veut. Bon, ils sont là un petit peu pour faire de l'agitation. Ils sont en plus dirigés par des gens sur lesquels il y aurait beaucoup à dire, mais je renvoie notre auditeur à tout ce qu'il pourrait apprendre là-dessus. Il y a malheureusement aussi des organes officiels, hein, la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, par exemple, dirigée par M. Jean-Marc Ayrault, dont l'objet est tout à fait honorable, encore qu'on l'ait limité à la traite transatlantique, comme si il n'y en avait pas eu ailleurs, mais dont le comportement est un comportement qui est hors du champ de l'histoire. Cette fondation a été créée il y a peu de temps, elle est quasiment exclusivement dotée par l'État, c'est-à-dire que nous la payons. Elle est logée à l'Hôtel National de la Marine sur la place de la Concorde gratuitement, il faut quand même le savoir. Et elle a comme présidente de son comité d'honneur, Madame Christiane Taubira. Hein, avec dans ce comité d'honneur à peu près tout ce que la place compte de racialistes, postcoloniaux, etc., donc qui en fait font de l'agitation autour de la question au lieu de l'étudier, parce que c'est ça, hein, normalement, le but de cette fondation. Et puis je dirais qu'il y a encore un troisième niveau qui est bien sûr ce niveau politique des gens qui luttent contre, je vous le disais, l'autorité de l'État, l'unité nationale, etc. Bon, là, la France insoumise, évidemment, avec M. Corbière, pourtant historien, mais qui a complètement oublié son métier d'origine. Et ainsi de suite. Et puis, je dirais, dans les ayatollahs, vous avez aussi tout, pardonnez-moi de le dire comme ça, mais tous ces fonctionnaires plutôt de haut niveau, la lâcheté, l'adoption des idées communes et le travail quotidien. Hein, quand on voit comment le cabinet de la ministre de la Culture a essayé de mettre des bâtons dans les roues à l'exposition de la Villette, on se dit, mon Dieu.
Alors, pour rebondir sur la question, Thierry Lenz, vous qui êtes le directeur de la Fondation Napoléon, pour rebondir sur la question de Maurice, à la fin de votre essai, vous parlez de Zemmour, Finkielkraut, Bruckner, tous ces intellectuels qui sont aujourd'hui décriés. Et vous rappelez aussi le livre de Michel Houellebecq, Soumission. Est-ce que pour vous, la France est soumise aujourd'hui ?
Vous posez de drôles de questions. D'abord, avoir cité ces auteurs m'a valu évidemment une critique majeure. J'ai certains de vos
c'est
confrères.
Vous voyez comme quoi. Certains. La question légitime.
Alors en plus, je dois vous avouer un peu que je l'ai fait un peu à dessein aussi.
Évidemment. Hein,
parce que j'étais sûr que bien sûr on me dirait ça. J'ai été dans une grande radio publique. Hein,
vous n'êtes pas tendre non plus avec là. On en parlera.
Où gentiment le présentateur me dit, ah, j'aimerais vous parler de votre livre après l'enregistrement. l'enregistrement. Et il me dit, ah, je suis d'accord avec 80% de ce que vous dites. Donc ça, j'avais déjà compris ce qui allait suivre. Il me dit, oui, mais quand même, vous citez Éric Zemmour. Parce qu'effectivement, j'ai mis en note une citation d'Éric Zemmour. Et je vais vous dire sincèrement, le jour où j'ai tapé cette citation en note, je l'ai fait exprès parce que j'étais sûr qu'on m'en parlerait.
C'est évident.
Et ça n'a pas raté. Hein. Voilà. En plus, c'est une citation qui est d'une banalité absolue, mais j'ai trouvé qu'il exprimait très bien une de mes idées. Donc
non, mais vous avez le droit de citer.
Voilà.
Moi, je ne vous le reproche pas.
Citer, bon. Voilà. Alors donc, c'est
soumis ou pas?
Oui, écoutez, je crois qu'on est en voie. Oui, oui. Je pense que j'ai longtemps pas lu Michel Houellebecq, vous voyez, pour vous dire la vérité. Et le premier livre de lui que j'ai lu, c'est Soumission, parce que vous savez qu'il est sorti le jour ou le lendemain des attentats de Charlie
c'est
Hebdo,
vrai.
Que beaucoup de gens en avaient parlé. Et je m'attendais à trouver un livre politique. Et en fait, j'ai trouvé un livre, un vrai roman passionnant, drôle. Mais qui, au fond, a cette leçon-là, c'est-à-dire que... Et alors, en plus, que Michel Houellebecq ait choisi le milieu universitaire me paraît particulièrement indiqué.
Avec tout ce qui s'est passé, notamment à Sciences Po Grenoble. Je voudrais aussi qu'on parle de l'ingérence des pays étrangers en France. Gérald Darmanin a rappelé à la maire de Strasbourg les tentatives d'Erdogan pour fragiliser la République. Vous y croyez, vous? Et j'allais dire, comme directeur, justement, de la Fondation Napoléon, il y a quelque chose, peut-être, qu'on a du mal... à voir aujourd'hui, quand on parle de Napoléon, c'était qui? C'était un empereur ou c'était quelqu'un qui défendait les idées de la Révolution? C'était un républicain? On a du mal à se faire un dessin dans tout ça.
Mais c'est justement en cela que le personnage est intéressant, c'est parce qu'il est quasiment idéologiquement insaisissable. C'est-à-dire qu'il est à la fois l'enfant de la Révolution, mais qui crée une monarchie. Il est l'homme de l'égalité qui n'est pas pour la liberté politique. Il méprise un peu les souverains étrangers, mais il voudrait quand même bien être accepté dans leur cercle. Il est l'homme de la nation, comme il dit, puis en même temps, il n'y a pas tant d'élections que ça sous le
consulat et l'empire. Il est tout et son contraire.
Exactement. Et c'est justement... alors, quand vous mettez ce personnage insaisissable avec une époque qui elle-même est insaisissable. Il faut toujours, les gens oublient que lorsque Napoléon arrive au pouvoir, la France est en guerre civile. L'ouest de la France s'est soulevé, la Provence n'est pas maîtrisée. La France est en guerre avec 12 puissances étrangères et en plus, elle s'est offert le luxe de la guerre religieuse. Donc, il arrive à un moment où, évidemment, c'est toujours mieux d'allumer des bougies, de bercer des nounours, de chanter des chansons de John Lennon. Mais bon, il y a un moment où il faut prendre des décisions et même parfois des décisions dures. Et c'est ce qu'il a fait. Et du coup, il a bien sûr ensuite profité de ça. Il avait de l'ambition. Mais quel homme politique n'a pas d'ambition?
Et sur ces tentatives donc d'Erdogan d'entrisme en France.
Moi, j'y crois. Hein, j'y crois vraiment. Enfin, il y a vraiment que l'Europe occidentale qui croit que le monde est fait de bisounours. Hein. Alors, bien sûr, nous, on n'a pas eu beaucoup de guerres en Europe. Il y a 20 ans, on bombardait Belgrade. Hein, il faut quand même pas l'oublier non plus. On croit que le monde est devenu bon parce que nous sommes devenus avachis. Mais en réalité, la politique étrangère, c'est véritablement un combat de tous les jours et en plus un combat qui ne date pas d'aujourd'hui, qui est souvent le résultat d'une politique, d'une diplomatie, d'une géopolitique qui ont des siècles. Donc il n'y a aucune raison pour ne pas croire, en tout cas pour ne pas se prémunir contre ce genre d'ingérence, évidemment.
La tradition dans cette émission, c'est que c'est l'invité qui choisit sa pause musicale. Alors vous avez choisi Gilbert Bécaud, Les Temps de Jeanne, il faut nous expliquer pourquoi.
Alors d'abord parce que je voulais vous ennuyer en ne choisissant pas une marche militaire napoléonienne, et puis ensuite parce que ça doit être une des premières chansons que j'ai entendues à la radio étant petit, évidemment je ne comprenais absolument pas de quoi il s'agissait et j'ai toujours gardé une grande tendresse pour cette chanson et pour Gilbert Bécaud aussi, dont je rappelle que ce sera le 20e anniversaire de la mort l'année prochaine et vraiment c'est un peu un chanteur, c'est un peu comme Guy Béard ou un petit peu comme Charles Trenet, on les oublie un petit peu alors qu'ils sont à l'origine de tout.
Les madames qui venaient voir notre oncle après dîner, on les appelait Tante Jeanne. Ce n'étaient jamais les mêmes, mais on les aimait quand même. On aimait nos Tantes Jeanne. Ces tontons qui étaient contents quand ils enlevaient leurs gants, ils les appelaient
cher Jean.
Les jolies vacances, quand une tante Jeanne venait. Oui, les jolies vacances que notre tonton se payait. Nous, quand on nous demandait combien de tantes on avait de tante Jeanne, on disait qu'on savait pas. Quand on aime, on compte pas, c'est tante Jeanne. Ce qui était important, c'est que tonton soit content, de tante Jeanne. Des jolies vacances, quand une tante Jeanne venait. Ah, les jolies vacances, que notre tonton nous payait. Nous, ça nous arrangeait bien, on nous envoyait au cinéma. En échange, on promettait bien de ne rien dire à grand-papa.
Quand on rentrait vers minuit, on ne faisait pas de bruit, pas de bruit. Pour tante Jeanne, dire qu'on était trop petit pour en avoir une aussi de chère Jeanne. Pour le petit déjeuner, tonton était toujours gay.
Cher Jean.
Les jolies vacances, quand une tante Jeanne venait. Ah, les jolies vacances, que notre tonton se payait. Maintenant, on a grandi, notre tonton a vieilli et vieilli. Les tantes Jeanne. Mais nous, quand on va le voir, comme il n'a plus de mémoire, on réveille les tantes Jeanne. Alors il est tout content, il retrouve le bon temps des chères Jeanne. Oh, et puis, les jolies vacances des tantes Jeanne passées. Ouais, les jolies vacances viennent tantôt. On va t'embrasser.
Gilbert Bécaud, Les Tantes Jeanne, c'est le choix musical de notre invité aujourd'hui sur Radio Judaïka, Thierry Lenz, le directeur de la Fondation Napoléon, qui nous reçoit chez lui, hein, à la Fondation Napoléon à Paris, et qui nous présente également son livre pour Napoléon. On va parler un peu de l'actualité aussi strasbourgeoise, on le fait quand même pas mal depuis le début de cette émission. Hein. 2,5 millions d'euros de subventions pour une association d'islamistes radicaux qui refuse de signer la charte républicaine de l'islam en France. Est-ce que cela vous apparaît normal, Thierry Lenz?
Je vais dire que le concordat, comme je vous l'ai dit d'ailleurs tout à l'heure, le concordat n'obligeait pas la municipalité à donner cette subvention, elle lui laisse quand même sa liberté de choix, que le fait qu'elle ait choisi, enfin que la majorité municipale ait choisi de verser la subvention, nous interroge beaucoup. Hein. Alors, encore une fois, c'est pas du tout, ce que je dis là n'est pas du tout dirigé contre le culte dont il s'agit. Hein. Simplement, les éléments d'information qu'on semble posséder sur l'association d'origine turque qui s'occupe de ça, font qu'il aurait fallu être un petit peu prudent, demander des garanties.
Alors, lors de ce débat, la France a découvert, on peut le dire, l'existence du concordat et de ses principes. Ce concordat a été mis en place par Napoléon, il faut le rappeler, hein, c'est pour ça que je vous pose la question. Faut-il, comme le demande une partie de la France qui découvre le concordat, l'abroger?
Bah écoutez, je crois que la partie de la France qui voudrait abroger le concordat va avoir un petit peu de difficulté avec les Alsaciens et les Mosellans parce que
la réalité, c'est qu'en Alsace-Moselle, on ne le veut pas du tout.
Oui, voilà, ça fait partie. Alors là, vraiment, ça fait partie des éléments qu'il ne faut pas toucher hein, en Alsace-Moselle parce que c'est entré complètement dans les mœurs. C'est aussi une survivance historique de l'annexion. Hein, pourquoi le concordat est encore applicable chez nous? C'est parce que au moment où il a été abrogé dans la France de l'intérieur, l'Alsace et la Moselle faisaient partie du Reich allemand. Donc ça, c'est un petit peu, la raison, c'est une raison un petit peu sentimentale. Mais je crois aussi que le concordat a au fond résolu un problème qui ne se posait pas à l'époque, c'est justement ce problème de, comment dire, de recul du culte, de recul de la pratique religieuse, et qui fait qu'aujourd'hui, les églises de France hors Alsace-Moselle ont quand même un petit peu de difficulté à vivre, à entretenir, etc. Donc je trouve, moi, que c'est une solution qui avait sauvé l'Église de France en 1802, qui avait permis une organisation et une entrée officielle dans la société française des cultes protestants. Et puis, avec les décrets de 1808, la reconnaissance d'abord officielle du judaïsme, et puis ensuite la mise en place d'une organisation. Alors je ne connais pas le culte mosaïque ou juif, mais une organisation qui est unique au monde, puisque nous avons un grand rabbin, etc. Ce qui n'est pas fréquent, mais qui au fond a très bien fonctionné.
Alors, puisque vous en parlez, rendons à Napoléon ce qui lui appartient. C'est lui qui a imposé aux Juifs une véritable politique d'assimilation volontariste à la France. C'est ce qu'on a appelé d'ailleurs le Grand Sanhédrin.
Ouais.
Les Juifs obtiendront ainsi plus tard la nationalité française. Pourtant, encore aujourd'hui, certains remettent en cause cette volonté d'assimiler les Juifs à la République. Pourquoi y a-t-il un fond encore d'antisémitisme, d'après vous, qui rejaillit sur les Juifs de la part des anti-napoléoniens ?
Alors, je voudrais juste d'abord préciser, les Juifs ont été citoyens à partir de la Révolution française. Mais déjà sous l'Ancien Régime, il y a eu, on va dire, une normalisation un peu de leur situation, sauf dans nos terres à nous, c'est-à-dire l'Est. Hein. Et les décisions qui ont été prises par Napoléon d'organiser le culte juif ont été consécutives à un de ces passages à Strasbourg où le préfet, lui, aurait fait état de difficultés entre la population juive et non-juive pour des raisons de commerce, de dette, enfin bon, etc. Napoléon se saisit du problème et il s'en saisit, je dirais, a priori un peu brutalement, mais au fond, sa procédure a été quand même la bienvenue. Il a d'abord demandé aux communautés elles-mêmes de définir leur position sur un certain nombre de problèmes. D'abord, une assemblée de notables, donc il y avait très peu de rabbins là, et puis ensuite, le Grand Sanhédrin, où là, la moitié des membres étaient des rabbins. On leur a posé des questions en leur disant, alors qui souvent sont présentées par les premiers historiens du judaïsme comme une méconnaissance qu'aurait eu Napoléon de ce culte, mais pas du tout. En fait, il leur a, non pas tendu un piège, mais enfin, il les a obligés à se prononcer sur un certain nombre de questions dont la société disait, par exemple, que les Juifs ne marient pas avec des non-Juifs, qu'ils ne veulent pas faire l'armée, que ceci, que cela. Donc, il leur a posé simplement des questions. Alors, comme il y avait les plus grands rabbins français qui étaient là, leurs réponses étaient aussi, comment dire, elles étaient théologiquement pensées. Hein. Enfin bon, c'est sûr qu'ils avaient, ils avaient quand même pas trop le choix non plus. Mais enfin, ça a permis de clarifier un certain nombre de sujets. Et partant de ces questions, Napoléon leur impose, il faut le dire, il l'impose, oui, une organisation. Bon, cette organisation ne vise absolument pas à s'occuper du culte. Napoléon se moque bien du fond du culte. Simplement, c'est « je veux un interlocuteur ». Moi, je veux parler avec des gens qui reconnaissent que l'État est supérieur au culte. Aujourd'hui, on dirait la République, puisqu'on ne dit plus l'État. Et puis, voilà, je veux des gens qui sont organisés. Il est vrai que dans les décrets de 1808, il y a un décret qu'on appelle le décret infâme, parce que il a décidé un moratoire sur les dettes aux Juifs, dans l'Est de la France. Il a voulu forcer les Juifs à prendre des noms du calendrier, des prénoms, etc. On sait, il y a eu des tas d'études qui ont été menées, notamment dans l'Est de la France, qui montrent que ça n'a pas marché du tout. Hein. Mais voilà, donc il y a eu la carotte et le bâton, si vous voulez, et le bâton a pas tellement servi.
Mais est-ce qu'on pourrait imaginer que cette volonté de l'État ou de la République de s'imposer sur les cultes, puisque là on parlait de l'islam très clairement, est-ce que on pourrait imaginer que dans le cadre du concordat, on le fasse avec l'islam ou avec une partie de l'islam, ouais, hein, ouais. Je parle de ceux qui refusent par exemple de signer la charte de l'islam de France.
aujourd'hui, puisqu'on parle de concordat, on sait très bien qu'on a demandé aux représentants du culte musulman d'intégrer pour l'Est de la France le concordat, que ce sont les musulmans, enfin leurs représentants, qui ne veulent pas intégrer le concordat parce que bah, y a effectivement, je paye des officiers du culte, mais en même temps, c'est moi qui l'ai choisi. Et ça, oui. Aujourd'hui, l'islam ne le veut pas.
Alors, on sait très bien que le choix, aujourd'hui, le choix...
Oui, c'est oui.
Pas le président de la République qui choisit l'évêque de Strasbourg. Quoi, hein, bon.
C'est sur proposition, officiellement.
Voilà. Mais si vous voulez...
Mais en même temps, c'est un contrôle, quelque part.
Oui, mais écoutez, je pense que quand même, c'est vrai que parlant du catholicisme, du protestantisme et du judaïsme, on n'a plus ce genre de problème d'ordre public, d'intégration dans la société. Enfin, je veux dire, qui peut dire aujourd'hui que y a des problèmes. Il y a bien sûr dans toutes les religions, il y a un petit peu d'orthodoxe ou de choses comme ça, mais enfin, globalement, les choses quand même se passent très très bien. La question aujourd'hui, c'est non pas les fidèles, hein, mais c'est l'organisation du culte musulman, qui est une organisation par nébuleuse. Enfin, il n'y a pas de... C'est même pas une question de hiérarchie, c'est qu'il n'y a pas d'organisation réellement. Donc voilà, leur demander de s'organiser pour bénéficier en retour d'un certain nombre d'avantages... Je crois que c'est la moindre des choses de la part de l'État. C'est ce qu'avait essayé de faire Nicolas Sarkozy quand il a créé le Conseil français du culte musulman. C'est ce que a essayé de faire M. Darmanin récemment. Mais il faut aussi dire qu'il manque un élément dans tout ça, c'est l'autorité de l'État. C'est-à-dire qu'à un moment donné, même pour les décrets de 1808, il y a eu quelque chose qui a été imposé par l'État. Et l'État avait suffisamment de force pour dire, écoutez, désormais c'est comme ça et pas autrement.
Thierry Lenz, il faut qu'on parle aussi des choses qui fâchent hein, concernant Napoléon. On ne l'a pas encore fait. Le bilan de Napoléon est extrêmement critiqué, notamment aujourd'hui par les historiens. C'est l'homme, je cite hein, tout ça, hein, c'est l'homme qui a rétabli l'esclavage, les génocides des Noirs, c'est l'homme qui a fait des procès politiques, c'est l'homme qui a provoqué, je cite toujours, des millions de morts dans les guerres. Qu'est-ce que vous répondez à tout ça ?
Alors, écoutez, on peut prendre les choses dans l'ordre. D'abord, sur l'esclavage, personne n'a jamais nié que Napoléon a rétabli l'esclavage en 1802. Hein. Bon. Alors, les Napoléoniens, de temps en temps, essayent d'édulcorer en disant « la loi dit, il maintient l'esclavage là où il n'a pas été aboli ». Bon, d'accord, ça c'est vrai sur la loi, mais on a rétabli l'esclavage dans
les 100 jours, c'est lui qui l'a aboli aussi, non ?
Non, alors il a aboli la traite, et en fait, c'est un peu de l'esbouffe. Hein, voilà, parce qu'il savait que le Congrès de Vienne allait abolir la traite, il a voulu se montrer plus libéral que... Voilà. Donc, sur l'esclavage, il n'y a aucun problème. Les historiens napoléoniens, d'ailleurs, n'ont jamais caché ça, enfin, ou mis ça sous le tapis, comme on dit. Il y a eu rétablissement de la législation d'Ancien Régime, dont le Code Noir. Il y a eu des massacres aux Antilles au moment de la reprise en main des colonies. Ça, c'est absolument incontestable. La vraie question ici, et celle qui, historiquement, a vraiment de l'intérêt, c'est de savoir pourquoi Napoléon, qui avait libéré les esclaves à Malte, libéré les esclaves en Égypte, à plusieurs reprises dit qu'il ne reviendrait pas sur l'abolition de l'esclavage, a changé d'avis. Pourquoi il s'est renié ? Et c'est un reniement qui est important. Hein, il faut savoir pourquoi. Alors le pourquoi, c'est probablement le lobby colonial qui l'entourait. C'est son ambition économique de relancer le commerce avec les Antilles. Et puis l'ambition de dominer les Antilles, puisque les Français et les Espagnols possédaient pratiquement toutes les îles à sucre et même les côtes, hein, avec le Mexique, avec la Louisiane, etc. Donc voilà, il ne s'agit pas de dire « il a eu raison, il a eu tort ». Enfin, il a eu tort.
C'est d'observer ça en tant qu'historien.
Voilà, c'est de regarder pourquoi il a fait ça. Et au fond, il a eu cette position, non pas par racisme, comme on l'entend parfois, mais tout simplement parce que, encore une fois, autre temps, autre mœurs, et puis cet objectif économique.
Le génocide des Noirs. C'est
non,
pareil.
Ça c'est une ânerie complète.
Les procès politiques ?
Alors les procès politiques, il y en a eu très peu, hein, parce qu'en fait on compte sous l'Empire, il y a, on va dire, deux exécutions purement politiques, c'est-à-dire on exécute des gens qui n'ont pas porté les armes contre le gouvernement. Hein, donc c'est le duc d'Enghien. encore que le duc avait promis qu'il entrerait bientôt en France et qu'il ferait la guerre au premier consul. Et puis c'est un libraire allemand qui s'appelait Palm, qui était un libraire de Nuremberg, qui a été fusillé.
Tout ça, vous en parlez dans le livre, voilà. D'ailleurs. Des millions de morts dans les guerres ?
Non, pas des millions, un million, en fait. Hein, c'est-à-dire un million de Français. Le calcul est dur à faire, mais on arrive aujourd'hui à peu près à savoir qu'environ entre 2 millions et 2 millions 500 000 Européens sont morts dans les guerres dite napoléonienne, 1800-1815, mais il faut rapporter ça par exemple à la guerre de 30 ans qui a fait 11 millions de morts, à la guerre de 7 ans qui a fait 1,5 million, puis évidemment on bat tous les records au XXe siècle. Si vous voulez, le problème n'est pas ici le nombre de morts, c'est pourquoi on fait la guerre, c'est-à-dire que Napoléon est l'héritier aussi d'une politique extérieure traditionnelle de la France. La France voulait être à l'époque la première puissance européenne et les autres n'étaient pas d'accord. Et à l'époque, on ne s'embrassait pas sous le drapeau étoilé, mais on se faisait la guerre.
Alors, il y a aussi quelque chose qui vous énerve et dont vous parlez dans le livre, c'est quand on compare Napoléon et Hitler. D'après vous, pourquoi il y a autant d'agressivité envers Napoléon aujourd'hui ?
Parce qu'il est un personnage central de l'histoire et de la mémoire nationale. Hein, évidemment.
Ça veut dire quoi ? Qu'on ne lui arrive pas à la cheville ? Que les politiciens ne lui arrivent pas à la cheville ?
Je ne sais pas. Vous savez, les circonstances ne sont pas les mêmes. Hein. Le général de Gaulle, en 1945 et en 1958, a fait des choses qui sortent aussi de l'ordinaire parce que la situation n'était pas ordinaire. Sans doute, le génie de la France, si je puis dire, pourra nous retrouver des hommes de cette trempe, mais là aussi, il faudra que les circonstances s'y prêtent.
Alors, place aux auditeurs avec trois nouvelles questions.
Une question d'Adèle de Strasbourg au Neudorf. Napoléon a laissé son empreinte sur toutes nos institutions actuelles, des lycées au code civil. S'il ne devait choisir qu'une seule réalisation de Napoléon, laquelle choisirait-il ?
Alors, je choisirais le code civil. Parce que c'est durablement avoir créé une nouvelle société. Le code civil, c'est-à-dire le code n'était pas juste prendre des petits trucs puis les mettre ensemble dans un même livre. Hein. C'était vraiment une pensée sociale qui n'est pas d'ailleurs uniquement celle de Napoléon, c'est celle aussi de son entourage. Il a un entourage brillantissime à l'époque et on réussit à créer quelque chose de cohérent en 2281 articles dont la moitié sont encore en vigueur et on reconnaît facilement les articles du code civil de 1804 parce qu'ils sont bien écrit. Hein. Tous les autres, on a voulu... Je cite toujours cette phrase de Portalis. Portalis, c'est l'homme qui a fait le discours introductif du Code civil. Et il disait toujours, les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires. Je veux dire, c'est notre époque.
Une question d'Emmanuel de Souffelweyersheim, c'est pour l'émission que vous faites tous les deux. Vous pouviez aborder ensemble l'homme des Tuileries qui fait partie des mystères ésotériques de l'histoire de France.
Ah, l'homme rouge des Tuileries, j'imagine. Hein. C'est une légende qui veut que à chaque grand événement, grand bouleversement de l'histoire de France, soit apparu ce qu'on appelle l'homme rouge. Alors donc qui était une espèce peut-être un revenant. On ne sait pas trop qui c'était. Alors est-ce que c'était Richelieu qui se réincarnait, etc. Enfin, pour ce que j'en sais. Hein, alors effectivement, il serait apparu. Je ne sais plus à quel moment, au moment de Waterloo ou quelque chose comme ça. Voilà, alors c'est vrai qu'on aurait pu l'inviter pour qu'il nous dise qui il était, mais il ne l'a jamais dit. Hein. Et puis, il réapparaît plus tellement, donc je ne sais pas quoi répondre à l'auditeur.
Une question de Robert de Saint-Hippolyte. Y a-t-il aujourd'hui un héritier de l'empereur et a-t-il une légitimité ?
Alors, il y a des héritiers de l'Empire et pas de l'Empereur, puisque les enfants naturels de Napoléon ne sont pas successibles, ou dynastes, comme on dit, mais il y a une famille impériale hein, qui est représentée aujourd'hui par le descendant de Jérôme Bonaparte, qui était donc le frère de Napoléon. Alors aujourd'hui, celui qu'on appelle le prince Napoléon, il en a le titre, s'appelle donc Jean-Christophe Napoléon Bonaparte, c'est son nom de l'état civil, et c'est un jeune homme qui doit avoir 30 ou 31 ans et qui n'a pas, à ma connaissance, d'ambition politique. Il a une légitimité représentative de la famille impériale. Il est d'ailleurs accueilli comme tel dans les cérémonies officielles, etc. Mais enfin, il n'a pas envie de devenir empereur. Enfin,
il n'a pas de revendication
pour le moment, oui.
Il suit un peu ce qui se passe avec la fondation.
Alors, la fondation est...
Ça l'intéresse, cette...
Alors oui, il faut le dire. On a toujours été, comment dire, parrainés, on va dire, parce qu'on n'a rien à voir avec la maison impériale, puisque nous sommes un financement complètement privé. Mais on a toujours eu comme marraine de nos activités la princesse Alix Napoléon, qui est donc la veuve du précédent prince Napoléon. Et là, maintenant, on a des relations pas très suivies, mais enfin... On connaît le prince Napoléon et on le voit de temps en temps.
Thierry Lenz, le directeur de la Fondation Napoléon, nous présente son livre sur Radio Judaïka aujourd'hui pour Napoléon. Vous n'êtes pas tendre hein, avec la presse dans le livre et notamment avec la presse publique. Vous estimez qu'il y a un manque, je vous cite, de savoir et d'apprentissage des jeunes générations de journalistes.
Oui. Oui, alors vous n'êtes pas de la toute jeune génération des journalistes, quoi qu'encore très jeune, mais c'est vrai, on le constate. Écoutez, en ce moment, je suis très sollicité par vos confrères pour des interviews, ou alors ils préparent un documentaire et ils me téléphonent pour avoir des informations. Je m'aperçois que évidemment, mais ils sont comme les autres, c'est-à-dire que Napoléon ayant disparu des programmes scolaires pendant 30 ans, n'étant pas enseigné à l'université, voilà quoi, hein, ils sont. Il y en a quelques-uns qui ont lu des livres sur Napoléon, évidemment, mais généralement, ils vont un peu dans le sens du vent, c'est-à-dire qu'ils ont entendu. On m'a dit que Napoléon n'était pas aux Invalides, on m'a dit qu'il était un. Bon, voilà, donc il faut toujours recommencer. Remarquez, ça me permet de perfectionner ma pédagogie avec les jeunes journalistes.
Mais tout ça, ça vous agace quand même, ces contre-vérités
Écoutez, je dis toujours, on n'est pas obligé de tout savoir sur Napoléon, mais si on veut en parler, il faut au moins savoir un minimum.
Pourquoi, par exemple, l'Éducation nationale a décidé de ne plus présenter Napoléon aux élèves de France?
Alors, c'est très ancien. Ça date des années 70, de l'époque Giscard d'Estaing, où on a supprimé, si les plus anciens s'en rappelleront, on a supprimé toutes les matières un peu structurantes, comme l'histoire, la géographie, pour les remplacer par une matière générale qu'on appelait l'éveil. C'était une matière transversale. Vous preniez le cheval. Alors, il y avait le cheval en sciences naturelles, le cheval en histoire, le cheval en géographie, etc. Le cheval dans la littérature. Et donc, on a pris l'habitude à ce moment-là de plus avoir de programmes verticaux en histoire. Et alors, le pompon, si je puis dire, c'était l'époque Najat Vallaud-Belkacem, où là, véritablement, on est allé jusqu'à dire que des enfants de primaire devaient se constituer eux-mêmes un socle de connaissances. Enfin, ce qui est quand même d'une absurdité absolue. Hein. Alors, il faut quand même reconnaître que l'actuel ministre Jean-Michel Blanquer a changé la composition du Conseil supérieur des programmes. Il est présidé aujourd'hui par une philosophe qui s'appelle Souad Ayada, qui est une dame qui a pris l'affaire à bras-le-corps. Et les programmes d'histoire ont été modifiés et en quatrième et en première, on recommence maintenant à étudier chronologiquement l'histoire du 19e siècle français, ce qui est très, très nouveau et ce qui oblige par exemple les enseignants à se reformer hein, sur ces sujets-là. Moi j'ai participé, par exemple on leur demande d'enseigner le congrès de Vienne aux classes de première, ils n'ont jamais étudié le congrès de Vienne dans leurs études, donc on leur a fait des petites, pas des formations parce qu'on ne forme pas les enseignants, mais enfin on leur a fait un peu d'informations là-dessus, on a produit des petites vidéos qu'ils peuvent utiliser et ainsi de suite. Donc, ce n'est pas complètement perdu, mais si vous voulez, les pédagogistes sont toujours actifs. Hein. Ils sont juste, on les a juste sortis un petit peu des postes de décision aujourd'hui, mais ils n'attendent qu'une chose, c'est d'y revenir.
Alors, il y a quelque chose que vous développez dans votre livre qui m'a semblé extrêmement intéressant. Il y a plein de choses intéressantes, mais celle-ci, j'ai voulu le garder un peu pour la fin de notre interview. Vous parlez, comme Robert Morisset, d'une économie de la gloire de Napoléon, en rappelant dans la Marseillaise, par exemple, le fameux couplet « Le jour de gloire est arrivé ». Vous donnez l'explication, finalement, de cette gloire. Pour vous, cette économie de la gloire permettrait d'améliorer le sort des citoyens par l'émulation collective. Comment on pourrait la remettre en politique, cette économie de la gloire?
Ça, je ne sais pas. C'est vrai que la gloire, aujourd'hui, c'est une idée qui nous est assez étrangère. Enfin, sauf si un joueur du Racing réussit un triplé. Alors, il aura une semaine de gloire dans
les DNA.
Mais
c'est vrai que Napoléon a développé cette économie de la gloire, quand on y pense.
Oui, il l'a créée. Alors, à la fois, il l'a démocratisée. C'est-à-dire, la gloire, sous l'Ancien Régime, c'était les grands, les militaires, etc. Puis lui, il a, c'est un homme qui crée des systèmes partout, il s'est dit, mais au fond, le jour de gloire est arrivée pour tous, quoi. Donc il a partagé la gloire avec ses sujets, par la Légion d'honneur, par des groupes sociaux spécifiques, par des pensions qui ont été données, par les articles de journaux, etc., de telle sorte que la gloire de la nation appartienne à tout le monde. Alors ça a un petit peu disparu aujourd'hui, mais si vous voulez, la chose qui pourrait rester de tout ça, c'est vraiment la remise en marche du mérite. Moi, je suis un enfant d'ouvrier, sidérurgiste de la région de Metz. Et je veux dire, si j'ai réussi un peu des études, si j'ai réussi un petit peu ma vie professionnelle, c'est justement parce qu'il y avait un système de mérite qui fonctionnait. Alors aujourd'hui, il a du mal à fonctionner parce que la société n'est plus la même, etc. Mais il est même rejeté. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui que on va créer des espèces de quotas un petit peu partout qui font qu'il n'y aura plus de mérite. C'est-à-dire qu'il faudra avoir la bonne couleur de peau, être une femme, peut-être autre chose plus tard. Alors qu'en réalité, c'est ce creuset-là qui a créé vraiment notre nation, qui fait que une personne qui habite à Strasbourg se sent de la même famille qu'une personne qui habite à Brest. Ils ne sont pas les mêmes. Ils ont un autre passé, ils ont une autre façon de vivre, ils ont d'autres plats à déguster, mais ils ont toujours cette impression de faire partie de la même famille. Un peu moins de décentralisation, un peu plus de mérite, et puis au fond, on pourrait peut-être commencer à se redresser.
Merci Thierry Lenz d'avoir été
Merci
notre invité. Qu'est-ce qu'on vous souhaite maintenant ?
Eh bien écoutez, on me souhaite un bon 5 mai, puisqu'on va voir ce qui va se passer le 5 mai pour le vrai bicentenaire de Napoléon. Tout le monde espère le président de la République à la cérémonie des Invalides. Et puis la suite, ce sera de me remettre sereinement à l'histoire sans être sans arrêt dérangé par ceux qui n'y connaissent rien.
C'était Profession de foi avec Thierry Lenz, le directeur de la Fondation Napoléon depuis les bureaux de Paris. Cette émission est en podcast sur le site www.radiojudaicastrasbourg.fr. Très bonne journée à l'écoute de nos programmes.